Octave Mirbeau, Les écrivains, Victor Hugo. Plein de gloire, rassasié de jour, bercé au murmure universel des respects et des deuils, Victor Hugo s'en est allé. Mais son âme demeure resplendissante comme un soleil dont l'humanité est tout illuminée. Aucune figure impure haleine, pas même celle de la mort, n'a pu éteindre ce grand flambeau. La nuit n'est point sur cette tombe de laquelle monte auguste l'aube rajeunie de l'immortalité. Comment saluer cette vie nouvelle? Quelle parole retrouver qui soit digne de sa grandeur sereine? Par quel chant, par quelle musique évoquer cette pure souverainement terrible et souverainement bonne qui se voile aujourd'hui de clarté et s'endort aujourd'hui dans la lumière? Est-il possible de raconter cette existence presque surhumaine, de la résumer en quelques lignes? N'est-ce pas ici plutôt un cri perdu, une inutile acclamation qui disparaît dans la pieuse et l'immense rumeur des foules? Essayez de fixer quelques traits de cette personnalité qui fut au monde et dont chacun exigerait des volumes et des poèmes. N'est-ce point une tentative folle? L'œil est petit et il embrasse des lieux, a dit le poète. L'admiration aussi est petite et n'embrasse pas souvent, hélas, le génie. Victor Hugo est né avec ce siècle qu'il devait remplir à lui seul d'une gloire ineffaçable. Fils d'un général d'Empire, Léopold Sigisbert, comme Hugo, comte Hugo, sa vue d'enfant fut frappée de tout l'éclat militaire de cette époque. Il assista aux revues empanachées, au retour des armées victorieuses, au défilé des drapeaux conquis, des canons vaincus, qui baissent leurs gueules de bronze. Il vit dans la cour des Tuileries s'embrasser les carrosses de tous les souverains d'Europe vassales. Son esprit reçut le premier éblouissement de l'homme mystérieux et pâle qui faisait trembler la terre, du passant formidable qu'on voyait aller et venir dans la tempête de Napoléon. On peut dire que Napoléon fut le vrai père de Victor Hugo. Le poète est né de cette épopée et il est resté jusqu'au bout, malgré les haines criminelles, malgré le criminel exil, fidèle à son origine. Même en ces derniers temps, il ne pardonnait pas plus au grand historien moderne, au premier évocateur des figures et des mœurs disparues, à Michelet, dont il disait « Vous êtes l'Himalaya » d'avoir osé toucher à l'homme. La révolution que Napoléon fit dans l'âme humaine par la politique et la guerre, Victor Hugo la continua et la compléta par la littérature. Tous deux procèdent du même mouvement qui entraîne hommes et choses, sentiments et systèmes à la fin du XVIIIe siècle. Ils sont les marcheurs de la même impulsion, de la même poussée. J'ai mis le bonnet rouge au vieux dictionnaire, s'écrie le poète dans les Contemplations. Et d'un côté le code civil qui affranchit l'homme et de l'autre la préface de Cromwell qui affranchit la pensée de l'homme. Cette préface, l'évangile révolutionnaire du romantisme, renverse un par un et les règles falotes et les bornes aveugles et les préjugés rampants. Sans effort, net comme en posant sur elle son doigt d'Hercule, Victor Hugo réduit ses froides divinités en poussière. Les trois unités de la tragédie classique s'évanouissent le drame shakespearien ardent, sublime, renaît. Et l'on voit s'effondrer les palais romains, les colonnades grecques, s'enfuir les fantômes surannés, comiquement empêtrés dans les plis des turcniques et des péplums. C'est la vie qui entre avec l'air et la lumière. La langue qui se mourait ressuscite en une explosion magnifique de mots retrouvés et nouveaux, qu'elle avait oubliés et qu'elle ne connaissait pas. Les oreilles qui s'étaient montrées choquées du mouchoir risqué timidement sur la scène par Alfred de Vigny, entendirent avec délice le torrent de substantifs et d'épithètes retentissantes qui roulaient sur la vieille rhétorique abstraite et le vieux système déraciné. En même temps, à la froide et plate prosodie de Lille, des Baourlourmains, des Andrieux, des Lebrun, succèdent avec les odes et ballades, les feuilles d'automne, avec tant d'œuvres pleines de rêves et de pensées, un verre d'un charme non encore goûté, un verre abondant et scintillant et beau sans le savoir. Ce verre chante comme la musique, évoque comme la peinture modèle, comme la sculpture, même une sorte de génie d'architecture semble présider à la construction des rythmes qui s'élargissent, s'enflent comme les voûtes sonores, se dressent comme les portiques sur les inénarrables assises des marches de marbre et des portions de fer. Le théâtre, le roman, le poème qui s'étaient fait coterie redeviennent foule. Le clavier du génie humain reprend toutes ces notes méprisées et brisées, et de bas en haut, du grotesque au sublime, le monument s'élève, semblable à la cathédrale gothique, dont la forêt de piliers et de colonnades abrite tout un monde chimérique et réel, angélique et démoniaque, dans l'enchevêtrement des feuillages de pierre. Dès lors, Victor Hugo a tout conquis. Il a été le fleuve impétueux qui emporte toute chose fracassée au courant de ses eaux colères, qui se creuse des lits nouveaux à travers des terres nouvelles. Puis il est redevenu la source inépuisable et sereine en laquelle le ciel se reflète et où chacun vient remplir ses urnes et s'abreuver. De sa pensée ont jailli des rayons dont les plus éclatants sont Théophile Gautier, Baudelaire, le comte de Lille. Et partout est passé un peu de l'esthétique, de la vision et de l'imagination du maître. Sa présence invisible se fait partout sentir. Des âmes se façonnent sur la sienne. On voit avec ses yeux, on aime avec son cœur, on hait avec sa haine. C'est l'âme inspirée du siècle. C'est la pensée de l'humanité. Je le puis suivre, Victor Hugo, dans son œuvre et dans sa vie. D'ailleurs, sa vie est connue et ses œuvres, qui ne laissait par cœur. On peut dire que sa vie se résume en ce mot « amour ». Ses œuvres en cet autre mot « vision ». Le grand poète a été un visionnaire sublime. Son regard semble fasciner les choses sur lesquels il se pose. Tout objet fixé par lui prend un relief énorme. Même à distance, quand il décrit des pays où il n'est jamais allé, même historiquement, quand il peint les époques lointaines, tout entière couverte de la poussière du passé, les hommes, les villes, les bêtes, les bois, tout surgit, tout s'anime, tout ressuscite avec un fracas de vie extraordinaire. Peut-être encore plus que dans ses vers, ce trait caractéristique est marqué dans sa prose, où le lyrisme de la description découle de la propre intensité de son intuition impitoyable et mystérieuse. Il est tellement ouvert aux impressions qui effleurent à peine le commun des esprits doués et vibrants qu'il trouve cette expression adorable, admirable et étrange, l'oreille voit. Toutes ses facultés, en effet, ont l'air d'être braquées sur tous les points à la fois. Il n'est d'horizon si lointain qu'il n'atteigne, de murailles si épaisses qu'il ne perce, de tombes si profondes dont il soulève le couvercle, et de fronts si obscurs qu'il n'illumine. C'est l'œil effrayant qui regarde Caïn. Il est dans le passé, il est dans l'avenir, qu'il éclaire de lueurs prophétiques. Il évoque ce qui doit naître, comme il ranime ce qui est mort, avec une magnificence et une toute-puissance de Dieu. Cette force atteint un tel degré en ce prodigieux génie qu'elle sera, je crois, un fait unique dans l'histoire littéraire, politique et humaine. Le grand poète a été la bonté. Il a aimé l'humanité comme le Christ l'aima, d'un amour infini, élargissant les bordes ensanglantés des patries, prêchant la communion des peuples, l'oubli des races, la fin des conquêtes. Il a pleuré sur les misères, il a pansé les plaies, essuyé les larmes. Il a relevé tous ses vaincus, consolé tous les captifs, vengé toutes les injustices. Il a tenté d'arracher l'homme aux proies des trônes effarés, des échafauds, des sociétés peureuses, et sa voix retentissante, faite de tendresse et de pitié pour les misérables, de colère et de supplications hautaines pour les puissants, a dominé, chaque fois que l'homme est menacé, le tumulte des intérêts oppresseurs et des lois homicides. Et puis, il a chanté les attendrissements divers qui entourent l'enfance fragile. Il a fait de la femme une faiblesse sacrée, de la faiblesse une puissance, et de la puissance un pardon. Les petits, les humbles, les pauvres, les déshérités, les malades, il leur a donné la première place dans le royaume féerique de son œuvre, qui est doublement immortel par le génie de l'artiste et la bonté de l'homme. Et tous diront pour Victor Hugo ce que Victor Hugo disait de Napoléon dans son ode à la colonne. « Oh va, nous te ferons de belles funérailles !» Octave Mirbeau, La France, 24 mai 1885.